Et pendant ce temps, il se passe bien d'autres choses sur la scène sportive, fort intéressantes, particulièrement dans le tennis. C'est pas pour ce week-end une finale toute canadienne d'un tournoi quand même d'une certaine envergure sur le circuit de l'ATP, mais on a comme la conviction que ça va arriver un jour ou l'autre. On pensait déjà un scénario comme celui-là quand le jeune Ogel Yassim a dû déclarer forfait en plein match au US Open contre Shapovalov quand ils se sont affrontés. Aujourd'hui, il s'est incliné au bris d'égalité en deux manches, mais c'est son service vraiment qui l'a lâché. Parce qu'il aurait pu gagner la première manche. Le match Shapovalov-Federer en demi-finale est sur le point de commencer. Je ne sais pas si on est aux échanges de pratique d'avant-rencontre, mais c'est sur le point donc de commencer cet affrontement-là. Et on va accueillir pour en parler, bien sûr, nul autre que Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Et tu as sûrement pris connaissance des propos de Roger Federer, qui a dit à propos de Félix et de Denis Shapovalov que ces gars-là vont charrier, they're gonna carry the sport. Ils vont charrier le sport dans le futur. Moi, je vais regarder, puis je vais me délecter en quelque sorte. Je ne le traduis pas mot à mot, là, mais je vais savourer ça en regardant ça de loin. Puis en plus, il va s'en réjouir parce qu'il dit non seulement ce sont de bons joueurs, mais ce sont de bonnes personnes.
Ouais, c'était très spécial d'entendre Roger Federer être aussi élogieux à l'endroit de Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov. On sait qu'il y a un lien particulier avec Félix. Il l'a déjà invité à s'entraîner avec lui. Il suit sa carrière depuis très longtemps. Et je pense qu'il se reconnaît un peu, lui, plus jeune, hein, Félix Auger-Aliassime sur le terrain. Il est très maître de ses moyens. Il ne se laisse pas beaucoup aller à l'émotion, même si aujourd'hui, ça a été un peu plus difficile de conserver son flegme là, quand il a commis quelques erreurs vraiment décevantes parce que il y avait John Isner à portée de main. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un lien là, entre les deux. Quand Federer prend la peine de l'inviter pendant l'hiver à aller s'entraîner avec lui, là, c'est signe qu'il en pense le plus grand bien. Shapovalov, c'est un autre style. Évidemment, il est beaucoup plus flamboyant sur le terrain. C'est une personnalité différente, mais ce soir, contre Federer, oui, que tu disais tantôt, ça commence dans quelques minutes, devrait donner un spectacle vraiment extraordinaire. Mais tu sais, j'ai regardé aujourd'hui, Mario, tout le match, coup par coup, l'affrontement de Félix Auger-Aliassime contre John Isner. C'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait de se rendre en demi-finale, mais il doit être choqué contre lui-même, Félix Auger-Aliassime, parce qu'il a eu deux chances, des chances de remporter chacun des deux sets. Au premier set, il sert pour le set à 5-4. Et depuis le début du match, ses services sont incroyables, il maîtrise totale. Et là, ben, j'ai l'impression que l'ampleur du moment l'a un peu rejoint.
Il dit qu'il attrape un virus. Il dit, ouais, c'est ça. C'est ça qu'il a dit au
le virus des doubles fautes à 5-4. Et ça a été vraiment dommage De voir ça. Puis au deuxième set, c'est un peu la même chose qui est arrivée. Là, il sert pour le set à 5-3. Il sert pour le set. Là. Il gagne le prochain jeu, puis il force la présentation d'une troisième manche. Et malheureusement, encore une fois, c'est là qu'il a connu ses ennuis dans ce jeu-là. Et ça, vraiment, à chacune des deux reprises, Mario, ça a reviré la situation en faveur d'Isner. Isner, c'est un vétéran. Il a largement plus de 30 ans. Il y en a vu d'autres. C'est pas un Federer, c'est pas un Nadal, c'est pas un Murray, c'est pas un Djokovic, c'est sûr. Mais il a eu une belle carrière. Il connaît le métier, puis contre un jeune comme Félix Auger-Aliassime, quand il a senti que l'autre était en train là, de vraiment d'avoir des ennuis à gérer le moment présent, il a sauté sur l'occasion. Mm-hmm. Mais écoute, il y a 18 ans, Félix, je trouve absolument extraordinaire ce qu'il a fait dans ce tournoi-là.
Par ailleurs, forte déception pour les amateurs du Canadien. Le Canadien qui n'a pas joué le match qu'on s'attendait. Une bonne première période, mais ça s'est effondré par la suite. Et les chances sont moins grandes. Je veux pas. Je faisais le jeu, je sais pas si tu entendais avec Mario tout à l'heure. On spéculait, puis il semble qu'en tout cas... Que le Canadien devrait arriver à court, là.
Ouais, ben c'est ça. Ça va être difficile. Je pense, moi, personnellement, c'est mon analyse, puis on en a parlé plus tôt cette semaine, toi et moi, Mario. Mon analyse, moi, c'est oublions Columbus. Columbus a trouvé son air d'aller. Ouais, ils sont partis. Hier, là, c'était pas le même niveau d'équipe sur la patinoire à compter de la deuxième période. Mm-hmm. Columbus, c'est une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley. Je te dis pas qu'ils vont gagner. Ils ont Tampa Bay, ils ont Toronto. Ça va être difficile. Mais, tu sais, quand tu dis, est-ce qu'ils peuvent avoir une chance de gagner la Coupe? Bien sûr qu'ils peuvent avoir une chance de gagner la Coupe. C'est une équipe très, très, très solide qui a fait des acquisitions importantes à la date limite des transactions. Et pour eux autres, là, l'avenir, c'est maintenant. C'est pas le cas du tout du Canadien. On le sait tous. Alors, hier, on a vu très bien la différence entre les deux niveaux d'équipe. Là, quand il a fallu appuyer sur l'accélérateur en deuxième période, il y a une équipe qui a été capable de le faire, puis l'autre équipe n'a pas été capable. Et alors, moi, j'oublie Columbus parce que je pense qu'ils ont un calendrier qui est raisonnablement favorable d'ici la fin. Demain, à Nashville, c'est sûr que c'est difficile. Nashville est une des bonnes équipes de la Ligue nationale, mais après ça, à Buffalo, contre Boston à Columbus, c'est dur, mais à Columbus, je pense qu'ils quand même ils peuvent remporter ce match-up. Ils finissent sur la route avec des rencontres contre les Rangers à New York et contre les Sénateurs à Ottawa. Alors, franchement, les cartes sont dans leur sont de leur côté. Alors, je trouve que le club qui est à la portée du Canadien, c'est les Hurricanes de Caroline, qui ont connu un peu de difficultés là, contre les Capitals de Washington. Eux aussi ont de la misère, un petit peu comme les Canadiens, de la misère à gagner contre les grosses équipes. Ils sont très bons contre les équipes de leur force, de leur niveau, contre les équipes moins fortes. Mm-hmm. Mais quand ils arrivent contre vraiment des gros clients comme les Capitals de Washington, là, ils n'ont pas le souffle pour se rendre jusqu'au bout du match. Ça me fait penser un peu aux Canadiens. Ils vont tenir deux périodes, mais après ça, comme le Canadien l'a fait là, quand il est allé jouer à Nashville puis à Tampa Bay là, un peu plus tôt, ce printemps ou même en février. Alors, donc, je pense que Caroline, il doit avoir un petit doute chez les Hurricanes. Et le Canadien peut peut-être en profiter. Mais quand tu regardes le calendrier du Canadien, c'est tellement dur.
C'est le pire des trois équipes, c'est le pire calendrier.
Winnipeg, à Winnipeg, contre Tampa Bay, ici à Montréal, à Washington, et contre les Maple Leafs de Toronto. Puis je comprends qu'on peut dire qu'il y a peut-être des équipes là-dedans qui, dans la dernière semaine, étant donné qu'elles sont assurées de leur place en série, vont utiliser un gardien de remplacement ou faire moins jouer leurs joueurs vedettes. Peut-être, mais tu sais, je crois plus ou moins à cette théorie-là, parce que généralement, déjà, la pause entre la fin du calendrier régulier, qui est samedi dans 8 jours, et le début des séries éliminatoires mercredi, c'est déjà un peu long. Alors, si t'es un entraîneur puis tu fais pas jouer tes meilleurs dans la dernière semaine, ils risquent de prendre peut-être un match ou deux en séries éliminatoires pour retrouver leur tempo et leur synchronisme. Tu veux pas ça.
Non.
Tu veux qu'ils soient, tu sais, vraiment sur le qui-vive dès le départ des séries. C'est trop important. Tu peux pas te permettre de perdre un match parce que tes joueurs sont pas prêts. Alors, moi, je crois plus ou moins à cette théorie-là. On verra. Peut-être l'utilisation d'un gardien réserviste. Ça, c'est évidemment, c'est possible. Tu ne veux pas blesser ton numéro 1, mais pour le reste...
Exemple, Tampa Bay, est-ce qu'on va affronter Louis Domingue ou
voilà, exactement.
Vasilevski? C'est une possibilité, mais c'est pour ça, le reste,
mais
je suis complètement d'accord.
Kucherov va jouer, là.
Ben oui, ben oui.
Fait que, puis Stamkos va jouer.
Des ravages.
Ouais, c'est ça. Alors, donc, ça va être difficile pour le Canadien, puis je trouve que, bon, oui, Winnipeg, je t'écoutais justement avec Mario, qui lui, pense que le match demain est à portée du Canadien. Moi, je pense que ça va être très difficile demain contre Winnipeg. Ça se peut que Biff Gluen reviennent au jeu, puis justement, parce qu'ils ont perdu, là, ils savent qu'ils sont en lutte, eux, avec Nashville.
Oui.
L'avantage de la glace va ultimement être important pour eux en séries éliminatoires. J'ai l'impression que demain, ils vont sortir un très, très gros match et que ça va être difficile pour le Canadien.
En tout cas, moi aussi, je pense que ça va être difficile, compte tenu de la façon dont le Canadien joue, c'est-à-dire qu'ils ont de la misère maintenant à assumer 60 bonnes minutes, mais s'ils pouvaient nous amener au 6 avril avec un match qui a encore une signification, là, ça serait déjà quelque chose d'assez spécial, comme tu l'as souhaité toi aussi semaine dernière dans nos précédents échanges. T'allais dire, Philippe?
Déjà, ce que je craignais, tu te souviens quand on s'est parlé il y a peut-être deux semaines,
oui.
Moi, tu sais, je disais, coudonc, est-ce qu'on va avoir une fin de saison en queue de poisson catastrophique? Puis heureusement, le Canadien a redressé la barre, puis c'est pas ça. Hier, c'est sûr que c'est décevant, mais les matchs ont encore une signification, puis il en reste seulement 4. Alors, bravo, ils se sont pas effondrés dans le dernier droit. Puis tu sais, les 4 derniers matchs, là, peut-être qu'ils en gagneront pas un, je sais pas, mais tu sais, c'est des clients de premier ordre là, qui affrontent. Alors, s'ils font des belles luttes, ça sera déjà ça. Mais tu sais, je parlais de clubs qui peuvent gagner la Coupe Stanley, et les quatre qu'ils affrontent sont certainement des prétendants à la Coupe Stanley. Hein? Il n'y a aucun doute là-dessus. Tampa Bay, grand favori, probablement. Washington, champion en titre. Winnipeg, toujours très impressionnant, même s'ils ont connu des moments plus difficiles récemment. Toronto, peut-être un peu une équipe boîte à surprise, là, capable du meilleur comme du pire. Mais il n'en reste pas moins qu'avec tout le talent offensif qu'ils ont. Et s'ils resserrent un peu leur défensive et que leur gardien but, c'est le coup, on ne sait jamais.
Donne-moi donc un petit commentaire en fin de conversation. Et c'est la seule qu'on a eue cette semaine. On n'a pas eu l'occasion de revenir sur le début de semaine baseball, les propos de Steven Brothman et le dossier dans l'ensemble du retour possible d'une équipe de baseball majeur, Philippe.
Bon, Mario, je suis tombé à la renverse en écoutant les propos de Stephen Bronfman. Son assurance, tu sais, on dit souvent que quand une ville et des promoteurs veulent obtenir une équipe, ils font tout pour ne pas choquer le bureau du commissaire. Puis je dis pas nécessairement qu'il a choqué le bureau du commissaire, mais quand tu arrives en entrevue, puis tu dis, les journalistes demandent, Tampa Bay, Oakland, ça va pas très bien. Puis non, mais lui, il dit, Miami non plus, ça va pas bien. Tu sais, il identifie une équipe qui avait pas été nommée. Puis il dit, les adversaires dans l'obtention d'une concession, que ce soit Portland, Charlotte, Nashville, Montréal, on est plus près qu'eux, on est plus gros qu'eux, on a plus d'histoire qu'eux. Je dis bravo, je trouve ça sensationnel, mais je trouve que ça illustre un niveau de confiance qui, moi, m'a étonné. C'est le même homme, Stephen Bronfman, qui, il y a à peine 2 ans, disait au même moment, en mars, mars, au même moment de l'année. Hey, on veut être prudent dans notre commentaire, dans nos commentaires. On veut pas gonfler les attentes des gens. Et deux ans après, c'est un discours complètement différent. Alors, moi, j'ai trouvé ça quand même assez surprenant, très encourageant aussi. Manifestement, c'est lui qui connaît le mieux l'état du dossier. Il a été tellement positif, tellement enthousiaste face à la perspective que les expos reviennent que tu te dis, coudonc, le dossier doit vraiment très bien avancer en coulisses.
Ah, moi, j'étais bouche bée pendant l'entretien qu'il nous accordait parce que j'avais pas vu son scrum, sa mêlée de presse. J'avais eu des échos, mais quand tu le donnes en face, qu'il te le dit, des propos semblables, qui rêve un scénario d'un premier lancé qui l'amènerait à vivre des grandes émotions, tout ça, j'étais moi aussi là, je dis waouh, écoute, c'est comme si
quand il t'a dit ça, là, Mario,
juste la date, oui.
Ouais, quand il t'a dit ça, là, il t'aurait jamais dit ça il y a deux ans. Il non. t'aurait jamais dit, Mario, je vais avoir des larmes aux yeux, je vais pleurer quand il y aura le premier lancé. Il n'aurait jamais dit ça il y a deux ans. Ça veut dire que là, il visualise déjà cette perspective-là. Ça veut dire, réalises-tu dans sa tête comment le dossier a avancé? C'est incroyable. Mardi, je suis allé au match de mardi aussi. On s'est vu lundi soir sur la tribune de presse. Oui. Mardi, j'étais là aussi. Et tout à coup, en troisième manche sur la tribune de presse, il nous annonce l'arrivée de Valérie Plante. Alors, la mairesse qui est venue faire son tour, tu te souviens, dans les années passées ou l'an passé, on lui avait reproché de pas assister à un match, là, elle était là, sa casquette des expos.
Tout le monde est main dans la main, Philippe.
Puis elle a répondu à toutes les questions, très enthousiaste, elle aussi. Puis elle aurait dit la même chose. Elle a dit, moi, la journée où M. Bronfin a dit qu'il ne demandait pas l'argent des Montréalais, j'ai dit, j'embarque, puis je suis prêt à aider de toutes les autres façons possibles.
Philippe, une excellente fin de semaine. Et Denis Coderre est l'invité de Derek ce soir à Bonsoir les sportifs, je te le dis en passant. On revient avec Benoît Brunet. Salut, Philippe.
Excellent. Salut, Mario. Bye. Bon week-end.
Toi aussi.